des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Du Trizac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
Parlons de politique avec Philippe-Vincent Foisier et Antoine Robitaille. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Avant de fédéral, provincial, merci. Le municipal, il y a eu un divorce politique qui a eu lieu.
C'est assez impressionnant ce divorce-là entre Ballarama Holness puis Marc-Antoine Desjardins. D'abord, à la base, ce mariage-là ne devait pas fonctionner. Donc, je suis vraiment pas surpris. Je suis juste surpris que ça éclate quelques temps seulement après ce mariage de raison-là. Au fond, c'est deux candidats à Montréal qui étaient un peu plus dans la marge, qui ont regardé les chiffres et qui ont dit « Soyons... Unissons nos forces, devenons un seul parti regroupé sous la bannière Ballarama Holness, puis avec ça, on va réussir à être cette troisième voie-là. » Si vous les connaissez pas, sachez que Ballarama Holness, c'est le candidat à Montréal qui est pro-communauté anglophone, qui veut faire un référendum pour que la ville devienne une ville bilingue, qui est là pour les anglophones, pour les minorités. Et Marc-Antoine Desjardins est un candidat qui voulait défendre le français, promouvoir le français à Montréal. Donc, sur un enjeu aussi crucial que la valeur, que le français, les deux ne s'entendaient pas du tout. Et finalement, ils avaient fait un petit compromis en disant, regarde, on va s'entendre, on enlève certaines mesures anglophones, on enlève certaines mesures pro-francophones. Puis, il y avait eu consensus de dire, ah, finalement, on va être capable de faire un référendum. Les deux, on va défendre les camps opposés si jamais on devient maire. Et avec ça, on va voir si c'est bilingue ou pas. Ça ne tenait pas la route. C'est comme si Éric Duhaime puis Gabriel Nadeau-Dubois se disaient, hey, nous autres, on pourrait former une troisième voie.
Ils lancent pas des idées de même, Philippe Vincent. Non, mais
Je mets en garde parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en politique. Non, mais je voulais juste dire que ça n'a pas de bon sens. C'était un peu une blague depuis le début. On se disait, ben, peut-être que ça peut devenir une troisième voie sérieuse. Visiblement, ce n'est plus sérieux, là.
Bon. Alors, les noces sont terminées.
Ouais.
OK. C'était
très court.
Alors, oui, hein.
C'est comme un mariage à Vegas, puis ils sont venus, puis ils ont fait, ouais.
Oh boy. T'as de l'air de ça, toi, pas maquillé. T'as de l'air de ça, pas peigné, toi, le gros.
Ouais, OK.
Alors, Antoine, de ton côté, il y a eu des réactions au discours d'hier de M. Legault.
Oui, une flopée de réactions. Oh. D'ailleurs, Dominique Anglade est en train de faire son discours de réponse actuellement à l'Assemblée nationale. Je remarque, parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, qu'elle dit que le gouvernement, nourrit la crainte de l'autre. Ouh, on n'est pas loin de souffler sur les braises de l'intolérance. Elle a fait un long, d'ailleurs, extrait en anglais, disant que le premier ministre n'avait pas assez parlé à la communauté anglophone et que c'est plus qu'une communauté historique, c'est une communauté pour l'avenir.
Attendez, excusez-moi. Là. L'association municipalité de banlieue est très déçue de l'absence dans le discours inaugural du premier ministre Legault de mention des villes bilingues. Fait qu'il a pas
t'as
fait...
Ça, t'as un communiqué entre les mains?
Oui. Comme l'une des catégories d'institutions importantes pour la communauté anglophone québécoise et plus largement pour tous leurs citoyens. Alors, c'est une omission qui arrive à un bien mauvais moment, puis évidemment, ils font un caca nerveux, puis ils parlent du projet de loi 96. Sommes-nous étonnés?
Pendant ce temps-là, les francophones dans le reste du pays, ils peuvent même pas avoir des informations en français quand il est question de voter à Calgary, par exemple.
Ouais, Frédéric Boily m'a dit ça de l'Université de l'Alberta. Il m'a dit à quel point, tiens, j'ai parlé des documents officiels là, pour les élections municipales à Calgary. Puis c'est pas unique, là, ça arrive souvent que le français soit même pas là. C'est quelque chose.
Tu n'auras jamais un éditorial du Globe and Mail pour dire que c'est une épouvantable violation des droits fondamentaux.
Jamais.
Des droits politiques. Hein, là, on parle de droits politiques, là.
Ouais.
D'une communauté, là. Ça, tu n'auras jamais un éditorial du Globe and Mail. Mais eux, quand ils peuvent trouver quelque chose dans une loi qui pourrait, avec lesquelles ils pourraient faire une hyperbole, genre des perquisitions.
Ouais.
Oh oui.
Non, mais là, les immigrants.
Récemment,
qui parlent
anglais, s'est rendu d'un édito sur les perquisitions épouvantables que permettrait là, la loi 96. Ah oui, on va débarquer là, chez eux, là, l'OQLF va débarquer, va péter la porte.
Marlon
la
Jennings
nuit.
A dit ça aussi.
Là, oh, c'est écoute, il me décourage.
Non, mais j'allais dire, ça va être bien parce qu'ils vont pouvoir aller à Dawson, à Marianapolis, à McGill, à
Concordia. Il en manque. Ils n'en ont jamais assez. Jamais assez.
Je trouve que, en tout cas, Dominique Anglade, elle a réagi. Donc, elle dit qu'il y a beaucoup d'absences dans le discours du premier ministre. Il y a des patients sur les listes d'attente qui sont absents. On n'a pas parlé d'eux. Infirmières, les éducatrices, la pénurie de main-d'œuvre, c'était pas assez, là, à son goût. Là, on lui a demandé, mais quand même, le premier ministre a parlé de manque de main-d'œuvre. Il a utilisé d'autres mots. Mais non, il faut qu'il utilise pénurie. c'est une stratégie politique aujourd'hui. C'est comme racisme systémique. Faut absolument que ce soit le mot que l'autre utilise. Sinon, tu nies la réalité.
C'est ça.
Tout ça pour dire que c'est un débat sur l'immigration, au fond, tout ça. Et Dominique Anglade, j'ai trouvé qu'elle était assez mal prise sur la question de la décentralisation du système de santé. Et j'étais au point de presse dans le hall ce matin. Là, on lui a posé des questions là-dessus. Elle dit, c'est vrai que c'est un problème. Qu'il faut décentraliser. Décentraliser, ça serait une bonne chose. L'ennui, c'est que tu avais les régies régionales qui avaient créées par Jean Rochon dans les années 90.
Ouais.
Parti libéral est arrivé au pouvoir en 2003. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les agences de la santé. Ça, c'est Philippe Couillard. Donc, regrouper plein de régies. Puis finalement, ils ont changé carte d'affaires. Ils ont dit, ah, c'est plus une régie, c'est une agence.
C'est ça.
Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont repris le pouvoir en 2014. Puis là, ils ont changé les agences pour les CIUS. Ah, donc, regroupés encore. C'est eux qui ont centralisé. Alors, quand on lui a posé la question à Mme Anglade, donc, vous voulez revenir à des régies ou des agences? Non. Vous voulez défaire la réforme Barrette? Non, c'est pas ça. Hey, à un moment donné, elle était tellement tannée qu'elle a dit, vous irez poser la question à Gaétan. Je vous jure.
Ben, on a essayé. On a essayé, on l'a invité ce matin à l'émission.
Puis?
Ben, il n'a pas le droit de parler, je pense.
Ouais, c'est ça. Il y a une porte-parole en santé, Marie-Montpetit, qu'on nous avait dit.
Qui va interdire Gaétan Barrette de parler?
Ben, c'est ça. Quand il veut, il a donné une bonne entrevue à Paul Larocque, justement, quand il y a eu l'espèce de petite controverse autour de qui serait ministre de la Santé dans un éventuel gouvernement Anglade. Il avait donné toute une entrevue. Depuis ce temps-là, on l'a plus vraiment réentendu.
Mais de toute façon, Christian Dubé ne veut pas nécessairement faire tout sauter les structures.
Ben voilà,
il y a une façon
Christian
de
Dubé,
s'en sortir, là.
Christian Dubé, il dit, c'est ça, il faut pas jouer dans les structures. D'ailleurs, c'était une promesse de M. Legault d'arrêter de jouer dans les structures de la santé. Puis je pense que ce serait indécent qu'on se mette à rebrasser ces affaires-là. En 2018, dans son discours d'ouverture, M. Legault avait dit qu'il faudrait pas toucher aux structures. Et là, il dit une vaste décentralisation, mais ça veut dire décentralisation dans la culture, disent-ils. Là, je sais pas trop comment. On a posé la question à Christian Dubé. Il a dit, par exemple, ça prend une gestion locale des horaires au niveau de l'installation. Ça veut dire, c'est plus le CIUS qui doit décider des horaires, évidemment. Il me semble que c'est évident. En tout cas, il semble qu'on soit obligé de le dire. Donc, la structure doit épouser les stratégies et non les précéder. C'est ça qu'il nous a expliqué ce matin. On verra comment ça va vraiment se concrétiser. Parce que c'est toute une question, la décentralisation, puis on peut être encore pris, alors qu'on a des problèmes bien plus graves que ça, à faire des jeux de structure, à jouer dans la structure.
Mais en même temps, Philippe-Vincent, je vous pose la question, là, si tu veux épouser les structures, comment peux-tu les réformer et les changer?
Ben, tu peux changer les façons de faire à l'intérieur, tu peux changer les organigrammes, tu as quelqu'un de responsable en haut, mais cette personne responsable à la tête du
structure.
C'est un jeu de façon de jouer avec les mots.
On fait mal aux mouches, là.
Ben, c'est parce qu'il
dit on touche pas à l'organigramme, on se concentre sur qu'est-ce qui doit être géré localement. Donc, gestion locale des horaires. Moi, je trouve que c'est un bon exemple, ça.
Mais pour permettre ça, il faut que quelqu'un qui avait la responsabilité haut la délègue en bas. C'est plus qu'un changement de culture. C'est pas juste quelqu'un qui doit dire « Ah, moi, j'ai plus envie de gérer les horaires. » Il faut dire qui décide. Puis cette personne-là, elle est dans l'organigramme. Fait que peut-être que tu la bouges pas de place, mais tu changes ses tâches. Tu réaffectes certaines choses.
En tout cas,
il y a des changements dans la structure sans casser la structure actuelle.
Mm. Moi, pour avoir été journaliste là, depuis une quinzaine d'années, j'ai suivi ça, là, la fin des régies, la fin des agences. Puis, où est-ce qu'il est le gain? Gaétan Barrette, il prétend que pour la vaccination, le fait qu'on ait centralisé les affaires, c'est une des choses qui a permis le succès actuel. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en période de crise, tu as besoin d'un truc structuré, bien, souvent centralisé.
Non, mais
centralisé.
Ça, c'est la santé publique. Ça, c'était Horacio Arruda qui a centralisé ça. Là. C'est pas Gaétan Barrette.
Oui, mais si tu as les CIUS... il paraît qu'avec les CIUS, il paraît, là. Moi, je suis pas un spécialiste, là. Ah, mais
puis comment il explique la catastrophe dans les CHSLD selon son succès?
C'est une bonne question. Il n'a jamais voulu répondre vraiment à ça.
Mais c'est ça le problème. C'est mais souvent là, c'est que c'est soit juste
Gaétan
centralisé.
Dubé une réponse à ça. Christian Dubé, il dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de patron localement.
C'est ça. Philippe Vincent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que faut arrêter d'opposer centralisé et décentralisé. Et ça va être ça le rôle de Christian Dubé, d'utiliser ce qui fonctionne bien dans une structure centralisée.
Mais tu peux pas, parce que si tu veux savoir qui décide, il est où, elle est où la personne qui décide? Est-ce qu'elle est dans l'immeuble même?
Sur place. Mais en fait, le problème avec la centralisation, c'est que tu as une équipe qui est loin, qui décide tout.
C'est ça.
Le problème avec la décentralisation, c'est que tu as plusieurs équipes sur le terrain qui décident sans se parler entre elles et sans apprendre entre elles. Est-ce qu'on est capable d'avoir un peu des deux, d'avoir quelqu'un au centre qui sait ce qui se passe, qui est capable de prendre certaines décisions, et sur le terrain, d'avoir des gestions différentes. Mmh. Si on regarde le Canada, pour parler à Antoine ici, si on utilisait la fédération comme il faut, on pourrait avoir ce genre de modèle-là où il y a des partages des pouvoirs, partage des compétences, et normalement, ça pourrait fonctionner. C'est une possibilité.
Mmh. Encore là, faut-il que les gens respectent les partages des compétences.
Là, voilà.
Et là, quand tous tes électeurs viennent te voir, puis t'es un élu fédéral, ils te disent, hey, à l'hôpital, j'ai pas de service. Eux autres, à un moment donné, ils se disent, peut-être que je pourrais promettre quelque chose, même si c'est pas de mes affaires. Puis, de toute façon, personne ne me parle de relations internationales ou d'armée. Fait que ça, c'est une vraie compétence. Fait que je vais me concentrer sur ce que je contrôle pas, puis le reste, ça va être géré comme le phénix, mettons.
Mais dans un mois, là, on va avoir un discours du trône à Ottawa et il va être lu techniquement en anglais, un peu en baragouiné de français si la gouverneure générale a appris 3-4 mots de français. Là.
En phonétique, ça se fait. Hein. J'ai déjà reçu des textes phonétiques de ministres fédéraux, c'est top, non?
Ah oui. Ah oui.
Des gens qui parlent pas. C'est ça. On leur fait un texte phonétique. Ouais, ils prononcent des sons, ils savent pas trop ce que ça veut dire.
OK, mon défi que je lance à vous deux pour demain, là, c'est demain, j'aimerais ça savoir ce que font les CLSC au Québec. Je veux juste savoir ça. Je veux juste savoir quels sont les services, à qui ça s'adresse, jusqu'à quelle heure c'est ouvert. J'aimerais ça qu'on fasse un topo sur les CLSC. À quoi ça sert, combien ça coûte, puis pourquoi on ne l'utilise pas plus.
C'est une excellente
question. Pourquoi on a vidé les CLSC, puis on a créé des groupes de médecine familiale, puis pourquoi? C'est ça. C'est une très bonne question.
Merci.
On se donne des structures, puis après ça, on construit d'autres choses à côté.
C'est ça.
Mais mettons, pour avoir utilisé récemment des CLSC, notamment dans la vaccination de l'enfant, c'est très utile, c'est très pratique, ça s'est très bien fait.
Mais t'as pas besoin d'un réseau pour ça, là. Ça aurait pu se faire ailleurs, ça aurait pu se faire autrement.
Ça aurait pu se faire ailleurs. Mais il y a beaucoup de suivi à domicile. Dans ma famille, j'ai une infirmière qui travaillait dans CLSC.
Oui, pour les mamans qui viennent d'accoucher.
Mais pour les personnes âgées, si on veut faire des soins à domicile, on a déjà une structure qui le permet. Si on veut faire des soins à domicile pour les aînés, puis on crée une nouvelle patente, alors qu'on a déjà ces installations-là, ces structures-là, pensons-y.
Okay,
on se donne une assurance autonomie, comme le premier ministre avait l'air ouvert.
Tu repars pas, faut qu'on se reparle demain.
Je te connais. Je m'accouche d'un continent.
L'incontinence apparaît.
Non, mais moi, je veux te parler plein d'autres affaires.
Oui, on va faire ça demain, M. Voisin, M. Robitaille, merci. Salut.